dans cet épisode du balado compte complet.
Mais lui qui a dit, écoute, la prochaine fois, il faudrait amener 4 équipes, qu'on passe une semaine complète et qu'on joue 2 séries. Moi, je trouve ça brillant comme idée.
Ouais, là, tu as le propriétaire qui va être moins content parce que c'est des revenus en moins, à moins qu'il y ait des ententes, là, mais...
Ben oui, écoute, le contrat de TD puis en Europe, écoute, il va retrouver son argent, là, je peux pas croire.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balle. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Nous sommes au début du mois de juin. On approche la mi-saison à grands pas. Marc, on va commencer avec les Blue Jays de Toronto parce qu'il y a une nouvelle qui a fait jaser énormément. C'est-à-dire le retrait de Kevin Biggio, non pas de la formation des 26 joueurs, mais de la liste des 40 des Blue Jays de Toronto. Écoute, ça a polarisé pas mal de partisans. On a besoin d'attaque. C'est un fait que Kevin Biggio n'a pas une grosse moyenne au bâton. Je regardais l'ensemble de sa carrière, Marc. Il n'a jamais été capable d'avoir le même rendement qu'à sa toute première saison dans le baseball majeur. Et ce qui revient comme commentaire, c'est l'utilisation que les Blue Jays en ont fait de Kevin Biggio. Puis c'est vrai qu'on l'a promené, on lui a jamais donné un poste à long terme. Il y a quand même un échantillon intéressant, mais ce qu'on a joué dans sa tête chez les Blue Jays, moi c'est la question que à laquelle j'aimerais que tu répondes.
C'est sûr qu'il faisait partie avec Bo Bichette et Vlad Guerrero Jr. de ce trio de jeunes joueurs qui allaient propulser les Blue Jays vers une équipe élite, vers une équipe qui allait aspirer évidemment aux grands honneurs. C'est sûr qu'on l'a promené. C'est clair, c'est pas évident. Là, les gens pensent que c'est facile de passer du deuxième au champ gauche, premier frappeur au huitième, au troisième, puis après ça, va jouer au premier but, va jouer au champ droit. Ça n'est pas évident, j'en conviens. Mais tu parlais d'échantillon. Tu sais, moi, j'ai été un de ceux qui a cru longtemps à Kevin Biggio. J'aimais son approche au bâton. Je pense que son QI baseball était quand même au-dessus de la moyenne dans la façon dont il se comportait. Mais ça reste qu'à la fin de la journée, Alain, ça te prend des résultats. Tu sais, ça prend un minimum. Et là, quand David Schneider est arrivé, qui joue un peu le même rôle, peut jouer au deuxième, peut jouer au champ extérieur... et a produit de façon un petit peu plus régulière. Ça a tassé, évidemment, un gars comme Biggio, même avec la mise sous contrat de Connor Falefa, qui peut jouer au 3 lui aussi, qui peut jouer au deuxième, qui peut jouer au champ extérieur. On se retrouvait avec 3 ou 4 joueurs qui pouvaient jouer le même rôle. Alors, il fallait vraiment que Biggio, qui a eu sa chance en début de saison, il était parmi les partants, là, tu vas me dire, oui, il se promenait encore, et c'est vrai. Mais c'est je peux comprendre la direction des Jays. Par contre, tu sais, bon, je regarde, il y a quelques joueurs dans la formation on aurait pu prendre une décision, on aurait pu être un peu plus patient encore avec, mais en même temps, je comprends la décision des Jays. Vogelback, tu sais, on a préféré garder Vogelback là avec à la place de Biggio. Alors Vogelback, on sait, peut juste frapper, c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Mais je pense qu'on s'est dit qu'on avait des joueurs qui ressemblaient étrangement à Biggio qui, de toute évidence, apportaient un petit peu plus en termes d'attaque. Et c'est là que la décision a été prise.
Oui, côté baseball, Marc, je regardais son taux de but sur balle. Il a toujours été au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Il regarde passer beaucoup de tirs. Il en voit beaucoup. Sa production, comme je le mentionnais, n'était pas à la hauteur, en tout cas pas à la hauteur des attentes de ce qu'il nous avait montré au cours de la première saison. Et compte tenu de son nom aussi, je ne sais pas s'il a été victime de ça un petit peu à quelque part, là, de ses succès de sa première saison et de son nom.
Bon, c'est évident, là, tu sais, ton père est au temple de la renommée, joueur étoile autant au deuxième que voltigeur que comme receveur. Tu sais, je veux dire, il est exceptionnel, Biggio à ce niveau-là. Donc, écoute, c'est pas facile comme décision, mais à la fin de la journée, faut regarder la possibilité, comment ce joueur-là peut nous aider, est-ce qu'il peut nous aider. Puis force est d'admettre qu'au fil du temps, t'sais, qu'est-ce que tu veux? Les statistiques n'étaient pas là. Le rendement n'était pas justifié là, pour garder Kevin Bigeau. Ça me rend triste parce que moi, j'étais vraiment un de ceux qui l'appréciait beaucoup, puis que je croyais en lui, puis que même en début de saison, rappelle-toi, je disais, ce sera soit Bigeau ou Schneider comme premier frappeur, puis je voulais descendre Springer. C'est un peu ce qui arrive présentement, sauf que c'est Schneider qui a pris la pole et Bigeau qui s'est retrouvé avec encore des buts sur balle, mais pas assez de rendement par la suite pour permettre de le garder à l'intérieur de l'équipe. Alors, ça fait jaser beaucoup parce que est-ce que c'est le début, Alain, de cette ère de Guerrero, Bichette, Bigeau qui commence à s'effriter un peu à Toronto? Moi, c'est surtout là que je trouve que ça... c'est peut-être le début là, de changement là, chez les Jays de Toronto.
Écoute, Marc, je vais te lancer un nom, puis Harold Ramirez, tu sais, qui a quand même produit avec les Rays de Tampa, qui lui aussi a été retiré des 40. Pourquoi je le mentionne? Parce qu'il faisait partie de cette équipe dans la Ligue Eastern, où justement, les trois dont tu viens de parler avec les Blue Jays de Toronto, Ramirez faisait partie de cette équipe à New Hampshire dans la Ligue Eastern, qui a connu beaucoup de succès. Et on se disait, ben, c'était l'avenir des Blue Jays de Toronto en 2018. On a besoin d'attaque. Est-ce que tu penses que c'est un gars qui pourrait revenir dans le giron des Blue Jays de Toronto?
Ben, écoute, en fait, toutes les possibilités sont là. Il faut produire en attaque, mais il faut regarder les éléments qu'on a actuellement. Ramirez, une raison pour laquelle les Rays l'ont laissé aller. Pourtant, ça a été quoi, deux saisons de 300 ou presque de moyenne au bâton? Ouais. Dans ce cas-ci, on a peut-être tiré la plug un peu rapidement du côté des Rays, mais bon, ça vous prouve à quel point il faut produire. Il faut juste produire le plus possible. Si on ne produit pas à l'intérieur d'un mois, deux mois et demi, ben là, il y a des décisions qui doivent être prises. Je suis sûr que les Jays le considèrent, mais ça reste, est-ce que c'est un joueur? Tu sais, les Jays sont en train de se bâtir une équipe là, où ça prend de la polyvalence. Parce que tu as vu, là, Vlad a joué un petit peu au 3. Après ça, Turner, on aimait moins sa présence au troisième, on le met au premier but. Alors, si tu amènes un Ramirez, qui écope, là? T'enlèves qui à ce moment-là? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements d'ici les prochaines semaines. Les Jays, bon, ont gagné leur série contre les Aces d'Oakland. On s'en va jouer une grosse série contre les Brewers de Milwaukee en début de semaine. T'as l'impression que c'est toujours un test. On n'est jamais là, confortable dans... dans le calendrier, dans la situation dans laquelle on se trouve. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va attendre, parce que là, en ce moment, les Rays et les Jays sont la dernière place de la division Ouest de l'Américaine.
Oui, effectivement, Marc, moyen de plus de 300 au cours des deux dernières années avec Tampa Bay dans le cas de Ramirez, mais cette année, Marc, sa moyenne au bâton n'était pas mauvaise, 2,68, c'est au-dessus de la moyenne du baseball majeur, mais un coup de circuit, un gros total de 3 buts sur balle. Dans le baseball moderne, Marc... avec une moyenne de 2,68, ça ne fonctionne pas.
Ben là, on serait aux antipodes avec Bigeau. Bigeau qui avait au moins capable de soutirer des buts sur balle. Et à l'inverse, l'autre bord, c'est un joueur complètement différent. Donc, c'est sûr qu'on regarde ce qui se passe à travers les autres équipes, les changements qui sont effectués. Mais pas facile de pointer un élément que les Jays ou le type de joueur que les Jays pourraient aller chercher.
Ouais. Je pense pas qu'on aille chercher Avisaïl Garcia là, qui a été libéré en fin de semaine par les Marlins. Là. Marc, est-ce qu'on va être à la recherche d'un cinquième partant? Là, Bigeau est parti, Spencer Horwitz frappait très bien au niveau 3. On va voir ce que ça va donner. Mais là, cinquième partant, on a vu en début de saison d'expérience Bolden Francis, ça n'a pas été concluant, a dû faire un tour dans le baseball mineur. Là, semble-t-il qu'on lui donne une deuxième chance. Ça a bien commencé. C'était pas contre l'équipe la plus menaçante à l'attaque, mais fallait quand même le faire. Là, 4 manches sans donner de points en fin de semaine face aux Aces d'Oakland. Tu y crois encore? Je sais que t'as un préjugé favorable envers Bolden Francis. Là, est-ce que tu penses qu'il mérite une autre chance?
Ben, écoute, oui, je l'ai apprécié. Là, ça ne deviendra pas un lanceur numéro 1, là, c'est-à-dire un partant numéro 1, là, mais... Dans le rôle dans lequel on le place, Alain, moi, j'ai pas de problème. Tu sais, les Jays, si je ne m'abuse, ont des congés. Là, les deux prochains jeudis, les Jays sont en congé. Alors, tu sais, tu n'as pas toujours besoin de ce fameux cinquième partant-là. Le seul problème, c'est que s'il y en a un autre qui tombe au combat, il faut que tu prévois quand même une possibilité. Et c'est là que les Jays pourraient être dans le trouble. Tu sais, si jamais là tu perds, je sais pas, un Gausman, là, pour que ce soit pour un ou deux ou trois départs, là, peu importe, même si la blessure n'est pas grave, il faut quand même prévoir le coup à un moment donné. Et c'est là que les Jays, sais, je trouve qu'on est, c'est mince là, c'est mince au niveau des possibilités là des lanceurs partants. Donc, il faudrait quand même se préparer à ça. Et entre-temps, ben Francis aura donc l'occasion de se faire valoir au cours des prochaines semaines, même si on a des congés, on va le voir. C'est quand même un lanceur à tout faire. Je pense qu'il peut donner des manches de qualité à son équipe.
Oui, ben le fait demeure, Marc, depuis le début de la saison, c'est l'attaque. Il faut qu'il en donne un peu plus chez les Blue Jays de Toronto. Là, on a un calendrier qui est plus relevé. On est dans la course encore, Marc. Comme bien des équipes en raison, d'une certaine irrégularité, manque de constance. Au moment où on se parle, on est à deux matchs, une place en série. Ce qui est quand même incroyable. Les Twins ont des difficultés. Il n'y a personne qui veut se détacher. Les Rangers du Texas, les Astros de Houston, les Rays de Tampa ne jouent pas comme on l'a fait au cours des années passées. Puis compte tenu des ennuis et des blessures, surtout des Astros, Marc, écoute, on peut peut-être rester longtemps dans la lutte.
C'est une drôle de saison. C'est une drôle de saison. Alain. Ouais, hein? Il y a beaucoup d'équipes qui je dirais pas déçoivent, mais disons que je joue pas à la hauteur encore. Et vous savez, les saisons sont longues et parfois, on peut partir un peu plus tard en saison, là, mais ce qui rend vraiment le classement hyper intéressant parce que c'est ouvert. Là, c'est vraiment ouvert, que ce soit dans la nationale ou dans l'américaine, il y a une possibilité. Si, tu sais, une équipe qui en gagne 10 sur 12 va carrément revenir là, dans la course et se positionner favorablement. Donc, c'est ce genre de saison-là. Donc, les Jays sont un peu, entre guillemets, chanceux de se retrouver dans une situation où on est en mesure, malgré un début de saison beaucoup plus lent qu'anticipé, malgré ce que les partisans en pensent, ils sont dans le coup. Alors, il faut quand même considérer ça parmi les options. Et c'est bon pour le baseball. C'est bon pour le baseball parce que ça va peut-être permettre, je sais que la date limite des transactions n'est pas demain matin, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite. Et ça va peut-être permettre, Alain, un marché fort mouvementé parce que là, il va falloir se positionner en se disant est-ce qu'on fonce ou on se laisse aller? Et je pense qu'il y a plus d'équipes qui vont dire on fonce. Et à ce moment-là, ça peut devenir, peut avoir les prochaines semaines là, où pour avoir des changements importants dans les équipes, puis ça, c'est toujours agréable.
Oui, et des noms peut-être plus surprenants qu'on pense, il y en a deux que j'ai en tête et on pourrait y revenir, Marc, c'est les White Sox de Chicago. C'est la pire équipe dans le baseball majeur cette année. Il y a deux gros noms, Marc, qui pourraient être disponibles, Wiss Robert et Garrett Crochet. Ça va coûter cher, mais on parle de deux super étoiles là, qui pourraient aider bien des équipes. C'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Et Marc, tu pourras peut-être ajouter sur ce qu'on a dit tantôt. La question, c'est sur Kevin Biggio. Est-ce que on l'a vraiment traité équitablement chez les Blue Jays de Toronto? A-t-il vraiment eu sa chance? Donc, envoyez vos commentaires à propos de cette question qui paraît sur Facebook. facebook.com/comptecomplet/balado ou encore sur notre site internet comptecomplet.com. Je ne sais pas si tu as quoi ajouter là-dessus, Marc.
Bon, je pense que j'ai répondu, Alain. Moi, je pense que oui, il a eu l'occasion de se faire valoir, même si on l'a chambardé à gauche à droite. Et c'est malheureux. J'espère qu'il aura une autre chance et que ça peut débloquer ailleurs.
Moi, j'ai bien l'impression qu'il y a une équipe qui va mettre le grappin sur Kevin Biggio. En tout cas, ce sera à voir.
Alain, je voudrais aussi souligner notre commanditaire principal, plan de match, boutique de baseball, cage de frappeur, cours privé aussi. Si vous voulez d'ailleurs vous procurer la casquette plan de match, vous payez sur la boutique en ligne de plan de match. On les remercie, c'est un endroit magnifique. La saison estivale est vraiment démarrée, les saisons sont démarrées, vous avez besoin d'équipement. Passez par plan match ou la boutique en ligne. Et si vous avez besoin d'entraînement, venez aussi utiliser les cages de frappeurs. Et je vous rappelle, la meilleure façon de nous rejoindre pour savoir où nous écouter ou nous regarder sur YouTube, allez sur le www.comptecomplet.com.
Marc, ça fait quelques semaines qu'on en parle déjà. On regarde la tendance à l'attaque dans le baseball majeur. On regarde le MPP, puis on se dit à un moment donné, on va grimper au-dessus de 700. Ça s'en vient, la chaleur arrive. La chaleur de la fin du printemps. Puis là, on est rendu quoi? Le lundi 10 juin 2024. Et le MPP est encore à 6,99. On n'a pas retrouvé 700. Puis j'ai regardé la tendance, Marc. Puis j'ai commencé en 2019. C'est l'année avant la COVID. Et écoute, En 2022, on a fini avec 706. OK? La moyenne de points par match, c'est à peu près la même chose qu'on a là, même un petit peu plus bas que ce qu'on a. Mais je regarde la ligne globale. Tu sais, quand on a le nez dessus, des fois, bon, tu vois des fluctuations, mais c'est comme un peu la bourse. Il faut que tu t'éloignes un petit peu pour voir que ça monte. Et là, dans le cas du MPP, il semble y avoir une baisse. Et là, j'y vais de 2019 à 2024. 2019, on se rappelle, c'est l'année des coups de circuit. Il y a deux équipes qui avaient établi des records, soit Minnesota et les Yankees. Donc, on avait un MPP à 7,58. L'année de la COVID, 7,40. 2021, 7,28. 706 en 2022. On est revenu à 7,34 l'année passée. Et là, on est à 6,99. Le nombre de points par match de 2019, on est passé de 4,83 à 4,34. C'est, dans un match, là, c'est un point de moins par match. Bon. On sait que les lanceurs lancent de plus en plus fort, puis ça semble augmenter d'année en année. Tu regardes les enclos de relève, Marc, la plupart des lanceurs lancent 95 et plus. Pas compliqué, là, c'est ce qu'on cherche. Bon, tu t'en tires quoi de ça? Est-ce qu'on est dans une tendance qui va être difficile à renverser ou c'est une fluctuation qui te semble normale?
Ben, écoute, tu fais bien de mentionner que là, les journées chaudes d'été s'en viennent. Je pense que ça va quand même augmenter. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut passer de 6,99 à 7,30? Ça, c'est tout un bon. Mm-hmm. Et ce qui est surprenant dans ça, c'est que oui, il y a beaucoup de bons lanceurs, mais il y a aussi beaucoup de bons lanceurs sur la liste des joueurs blessés. Ce qui fait que, normalement, tu sais, toutes les équipes cherchent encore des lanceurs, cherchent des bras. Et pourtant, c'est encore l'attaque qui écope dans tout ça. Et je pense, Alain, que malgré ce que tu viens de mentionner, les frappeurs sont encore meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5-6 ans parce que on est en train, tu sais, les balles, bon, tu as parlé de vélocité, mais on parle maintenant de vélocité et mouvement en même temps. Donc, c'est du 99 avec des balles rapides tombantes qui bougent de façon incroyable. Alors, l'art de lancer évolue constamment. Tu sais, tu vois constamment des lanceurs qui lancent fort, prendre des balles, puis tester des prises de balles, des angles de bras, tout ça pour faire bouger la balle et désynchroniser le frappeur. Mais le frappeur, lui, quelles sont ses options pour être meilleur? Juste d'être plus vite, d'une coordination. Tu comprends, c'est que l'évolution du lanceur, je dirais pas qu'elle est à l'infini, là, parce que, mais tu sais, on peut faire bouger des balles de n'importe quelle façon et surtout avec la qualité des bras qu'on a aujourd'hui. Mais pauvre, le frappeur, lui, il pourrait peut-être prendre un bâton un petit peu plus léger, il peut essayer de se développer. Mais tu comprends que ça devient extrêmement difficile pour le frappeur qui ne peut pas suivre, selon moi, l'amélioration, cette façon de faire des lanceurs. Alors, c'est pas surprenant. Ceci étant dit, je crois vraiment que il y a un ajustement qui va pouvoir se faire durant. Donc, la balle va voyager un petit peu plus, il va avoir des éléments qui vont aider les frappeurs, mais ça peut pas suivre la courbe. Tu parlais de courbe tantôt, là, ça peut pas suivre la courbe. Et j'ajouterais à ça, Alain, que moi, je trouve, puis même depuis 2019, là, je vous parle pas de début des années 2000, même depuis 2019, je trouve que les joueurs sont encore meilleurs en défense. Donc, on vole des coups sûrs. Alors, c'est sûr que la moitié des balles frappées dans les allées, là, qui était bon, maintenant, on a les données, là, les fameuses qu'on appelle les catch probability. Là, mais là, ben alors, aujourd'hui, là, t'as des gars, Julio Franco ou Chansons, ça trappe, tu sais, la balle, elle tombe plus. Alors, ça, tout est contre le frappeur, ou presque. Et Alain, on va se le dire, là, les nouvelles règles, l'ajustement, bon, des défenses adaptées, ça n'a pas rien donné à l'attaque, là. On sait, bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que je comprends le baseball majeur qui tente de trouver des solutions pour augmenter l'attaque, pour avoir des coureurs sur les buts, des vols de buts, des choses comme ça, parce que je pense qu'on réalise à quel point c'est devenu de plus en plus difficile. Alors, les frappeurs sont meilleurs, sont pas mal meilleurs qu'il y a même une dizaine d'années. Là, on n'est pas besoin de reculer tant que ça. Compte tenu de frapper des rapides à... Tu parles des revers de fin de match, là. 8e, 9e manche, là, c'est du 103 000 à l'heure qui bouge aujourd'hui, là. Alors, les frappeurs sont meilleurs, mais on peut pas donc suivre cette courbe-là chez les frappeurs. Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Est-ce qu'il va falloir baisser le monticule? Je ne crois pas du tout à reculer le monticule. Ça, je suis pas là du tout. Est-ce que, ouais. Mais là, baisser le monticule, est-ce que on a déjà beaucoup de problèmes de bras? Est-ce que ça va occasionner d'autres problèmes de bras? Donc, tu veux pas corriger une affaire pour en créer un autre problème. Alors, la solution n'est pas évidente.
Oui, Marc, je regardais vite là, pendant qu'on parlait tantôt, là, l'efficacité défensive qui est passée de, en 2019 de 6,88 à 6,99. Tu parlais de l'excellence défensive. Peut-être qu'on place encore mieux les joueurs qu'on le plaçait. On aura un débat, Marc, où éventuellement, on va élaborer un peu plus sur l'élimination des défenses adaptées, qui a peut-être un effet pervers là, relativement à la façon dont le match se joue. Est-ce que la seule façon, Marc, est... bon, le congrès de la Sabre s'en vient bientôt, et moi j'aurai l'occasion de parler à certains collègues. Et je sais qu'il y a une discussion qui a lieu, bon, c'est entre collègues, il n'y a pas eu de présentation, mais qui disait, si on veut retourner à un baseball qui ressemblait un petit peu à des plus de balles en jeu, peut-être qu'on pourrait modifier un peu la balle. Écoute, je ne te dis pas de changer complètement la texture de la balle, mais peut-être la rendre un tantinet moins dur, de sorte qu'on aura plus de balles en jeu. Peut-être qu'on aura moins de coups de circuit à 480 pieds. Mais qu'on va forcer des joueurs à mettre la balle en jeu. Puis évidemment, si la balle est un tantinet moins dense, elle va peut-être arriver moins vite, comme c'était le cas un petit peu dans les années 70, 80, 90. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Parce que c'est clair, Marc, si elle est moins dense, elle va peut-être aller un peu moins vite, elle va aller moins loin, mais plus de balles en jeu. Je ne sais pas ton opinion là-dessus, Marc, ça peut ressembler à quoi? Toi qui as joué au baseball, là, puis bon, un petit changement, qu'est-ce que ça peut donner?
Ben, en fait, où tu as raison, Alain, c'est que si on change quelque chose sur la balle, il va avoir une influence directe sur le résultat. Ça, c'est clair. Le baseball a changé la balle au fil des années, puis souvent, il n'en parlait même pas. C'est les joueurs qui s'en rendaient compte. Alors ça, c'est sûr que c'est un aspect qui pourrait aider ou changer la donne. Mais il faut faire attention. T'sais, est-ce que là, tu as le radar qui est à 100 000 à l'heure? Là, tu envoies une balle qui... ça va être difficile à aller chercher, par exemple, cette vélocité-là. Est-ce que ça va créer des blessures additionnelles parce qu'on va forcer encore plus? Oui, la balle peut changer de quoi. Est-ce que c'est la solution? Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que... je ne comprends pas encore qu'en 2024, puis là, on en parle beaucoup moins, là, mais qu'on n'a pas une balle qui est moins glissante et qui est universelle. Tu sais, qu'il n'y a pas un produit là, qu'on... au lieu d'avoir encore des gars qui tentent d'avoir de la résine de pince dans le cou puis essayer de ou sur le gant là. Fait que oui, la balle pourrait être une solution, mais elle n'est pas parfaite encore parce que encore une fois, ça va créer d'autres éléments. Mais je pense que il faut que l'art de frapper continue de se développer, on continue de trouver des trucs, on continue de trouver des solutions, parce que s'il y a un sport qui n'a pas changé, c'est-à-dire que, vous savez, au golf, les bâtons de golf aujourd'hui, ou les raquettes de tennis, ou c'est léger, c'est puissant, écoute, au baseball, c'est encore le bâton de bois, là. On a changé l'essence du bois un peu, là. Il y a plus d'érable et de bouleau jaune qu'à une certaine époque, mais ça reste l'instrument principal, pas nécessairement évolué tant que ça pour créer de l'attaque. Alors, c'est pour ça qu'on est rendu dans ces débats-là aujourd'hui, de voir comment on peut trouver des solutions. Alors, et je pense que la meilleure solution, c'est que les frappeurs, encore une fois, trouvent le moyen, même si la courbe ne suit pas l'amélioration des lanceurs, qu'on trouve le moyen. Et tu sais, là, je vais peut-être être plate, là, mais est-ce qu'on pourrait pas revenir un peu plus à l'amorti pour frapper court, puis des choses comme ça, qui pourraient aussi ouvrir, selon moi, peut-être certaines possibilités en attaque? En tout cas, je laisse ça de même.
Bon, regarde, ça aussi, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs dans un segment spécial là, qu'on présentera sur les statistiques avancées. Marc, un petit mot sur la série qui a eu lieu à Londres. Je pense que ça a été un gros succès cette année. C'est peut-être même, la série qui a le mieux vendu le baseball là, outre-mer.
Absolument. Deux équipes là, qui ont foncé dans le projet. Plusieurs anciens joueurs qui étaient aussi présents. Ça a été une grosse affaire. Des bons matchs de baseball. Je pense que les gens ont pu apprécier aussi, là, pas qu'ils ne l'aient pas apprécié dans le passé, mais il y a eu des pointages un petit peu trop élevés dans le passé. Ouais. Et tu sais que le baseball majeur cherche, on s'était donné comme objectif il y a une couple d'années, qu'en 2026, on puisse jouer là, au-dessus d'une vingtaine de matchs régulière, la saison régulière, là, dans d'autres pays. Bon, on sait qu'il y a eu des matchs en Asie en début de saison, ces deux matchs à Londres, mais je pense qu'on aimerait augmenter ce nombre de matchs-là. Il y a des matchs préparatoires qui se font aussi, là, mais le baseball aime le résultat certainement du dernier week-end. Alors, je serais pas surpris que dans le calendrier 2025-2026, qu'on ait un petit peu plus, pas seulement à Londres, mais qu'on s'en aille un petit peu ailleurs pour... pas pour qu'il y ait des franchises, évidemment, du baseball à Londres, mais pour que le baseball, on en jase davantage, que le baseball amateur aussi dans ces pays-là puisse être un peu plus populaire. Et qui sait, Alain, à ce moment-là, on sauterait pas d'année aux Jeux olympiques. Éventuellement, le baseball pourrait retourner aux 4 ans. Là. Mais il y a quand même des choses intéressantes à retenir. Et je pense que le baseball majeur a de l'intérêt à aller... Et les joueurs ont beaucoup apprécié, en lisant à peu près tout ce qui s'est lu. Tu sais, parfois, c'est sûr que sur les 50 qu'il y a quelques joueurs, il y en a sûrement qui ont moins aimé ça, mais la plupart ont apprécié beaucoup leur expérience.
Et Bryce Harper, Marc, écoute, c'en est un qui voudrait vendre le baseball davantage, même qu'il a suggéré qu'on aille aux Jeux olympiques. Mais lui qui a dit, écoute, la prochaine fois, il faudrait amener 4 équipes, qu'on passe une semaine complète et qu'on joue 2 séries. Moi, je trouve ça brillant comme idée.
Ouais, là, tu as le propriétaire qui va être moins content parce que c'est des revenus en moins, à moins qu'il y ait des ententes, là, mais...
Ben oui, écoute, le contrat de télé, puis en Europe, écoute, il va trouver son argent, là, je peux pas croire.
Mais souvent, les bonnes idées proviennent parfois des joueurs de même parce que les joueurs sentent l'énergie, sentent l'expérience. Tu sais, c'est pas juste au terrain, c'est peut-être à l'hôtel, c'est peut-être en marchant dans les rues qu'on découvre des choses, puis on dit, hey, une bonne idée, si on amène 4 ou peut-être même 6, bon, peu importe le nombre d'équipes, mais oui, effectivement, et il y a une ouverture. Le baseball est ouvert à ça, donc soyez pas surpris qu'en 2025 ou 2026, on puisse avoir ce genre de série-là se jouer, non seulement à Londres, mais comme j'ai dit, mais dans d'autres pays.
Oui, en tout cas, ce sera à suivre. C'est le temps de la carte de baseball de la semaine, qui est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Cette semaine, on s'arrête sur l'ancien lanceur des Orioles de Baltimore, Jim Palmer. Toute sa carrière a été passée dans l'uniforme des Orioles. Il a commencé, lui, en 1965, gagné la Série mondiale l'année suivante. Et en fait, il a gagné au cours de 3 décennies, en 66, en 70 et en 83. Sa carrière s'est terminée en 84, toujours actif comme analyste au match des Orioles. C'est la deuxième année, 1967, que Palmer apparaît sur une carte de baseball par Topps. Et les gens qui regardent la version vidéo de ce balado, vous voyez l'exemple à l'écran, c'est une carte qui n'est pas bien centrée par rapport aux lignes de coupe de ceinture, la carte. C'est une difficulté à laquelle les collectionneurs font face, entre autres, pour les cartes des années 60 et 70. Selon la compagnie d'évaluation de cartes PSA, une carte avec, c'est gradé, là, avec un grade de 2 sur 10, ça vaut 20 $. Si vous l'avez 10 sur 10, félicitations, c'est plutôt rare. C'est au-dessus de 10 000 $. On parle d'autour de 11 700 $. T'en as pas une carte comme ça, toi, Marc?
Non, j'en ai malheureusement pas comme ça, mais je peux te dire une chose. Jim Palmer, moi, évidemment, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup, mais à force de lire et sur lui, c'était l'élégance même au monticule. Hein? C'était un grand... Ouais. Grand, mince, l'espèce de physique de lanceur que tout le monde recherchait. Là.
Ben, c'était pas l'élégance juste sur le terrain, Marc. En dehors du terrain, il y a des compagnies qui ont aimé son élégance suffisamment pour l'amener à être modèle pour les sous-vêtements. Juste une petite anecdote, Marc. Palmer, après sa saison 66, a eu des maux de bras. Seulement 9 départs en 67. Il a raté toute la saison 68 et il était disponible au repêchage de l'expansion de 1969. Ça veut dire que oui, les expos auraient pu le choisir. Donc, et Palmer, par la suite, il a gagné quelques trophées Cy Young, 3 en fait, et il est maintenant membre du temple de renommée. Marc, tu imagines si les expos avaient mis la main dessus?
On s'imagine bien les affaires avec les expos, je te dirais, Alain.
Ouais, donc, Jim Palmer, la carte de la semaine.
C'est maintenant le moment de notre segment Baseball Québec et on a le privilège de recevoir aujourd'hui Patricia Landry. Patricia qui a un titre très large, évidemment, qui s'occupe de l'Académie de baseball du Canada à Trois-Rivières, côté féminin, aussi associée avec l'équipe nationale, ancienne joueuse de l'équipe nationale. Alors, on va parler de baseball féminin aujourd'hui. Bonjour, Patricia.
Bonjour, Marc.
Écoute, je sais que, ben, en fait, les gens savent que le baseball féminin est de plus en plus populaire, mais il y a aussi le volet baseball féminin au niveau de l'élite, de l'excellence. Et t'en fais partie, t'as évidemment été en mesure de partir pratiquement là, du début de l'Académie de baseball du Canada à Trois-Rivières. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Bon, ça a débuté il y a quelques années, vous avez déjà, bon, du chemin de fait. Comment ça va avec l'Académie de baseball du Canada à Trois-Rivières?
Ça va très bien. On a débuté l'Académie en 2021. 2021, on accueillait 12 joueuses. 2022-23, on a accueilli 21 joueuses et cette année, on est à 33 et on attend plus de 38 joueuses pour 2024-2025. Donc, l'intérêt est là, puis ça se déroule très bien pour nous depuis les trois dernières années.
Alors, il y a de plus en plus de filles là, qui non seulement participent au baseball, mais donc décident d'y aller à fond. Autrement dit, une fille décide d'aller avec l'Académie de baseball du Canada à Trois-Rivières. Comment ça fonctionne? C'est à temps plein? On s'entraîne à l'année? Comment ça fonctionne?
Oui, c'est un engagement sur l'année. En fait, c'est un peu comme les sports-études, donc de septembre à juin. Autant les filles du secondaire que les filles du cégep. Donc, les filles du secondaire sont en sport-études à l'Académie des Estacades à Trois-Rivières. Puis, les filles du cégep sont avec l'Alliance sport-études. Donc, elles sont libérées les après-midi. On s'entraîne à tous les après-midi de septembre à juin. Et à partir de mai, on accueille des filles de l'extérieur du Québec qui viennent, qui s'alignent avec des équipes de la Ligue Canada-Est. Donc, des filles qui sont sur les équipes nationales qui viennent s'entraîner avec nous.
Bon, tu viens d'ouvrir la porte sur la Ligue Canada-Est. C'est nouveau. En fait, c'est récent. J'aimerais que tu nous en parles parce que, dans le fond, on voulait créer, j'imagine, une ligue où les joueuses pouvaient jouer entre elles et créer justement une certaine compétition là.
Exact. C'est en fait depuis la création de l'Académie, mais on a réalisé que l'été, il n'y avait pas tant d'opportunités pour les filles. Donc, ils s'entraînent à l'année avec l'opportunité d'aller dans un championnat canadien, mais on cible 14 filles. Là. Donc, pour offrir plus d'opportunités à plus de filles, on s'est dit, mais pourquoi pas créer une ligue? Donc, l'année dernière, on a créé la Ligue Canada-Est qui était composée de 3 équipes. Cette année, on a ajouté une 4e équipe. Donc, c'est les meilleures filles de 17 ans et plus du Québec et s'ajoutent à ces filles-là des filles de l'extérieur du Québec qui ont des ambitions d'équipe nationale ou qui sont déjà sur l'équipe nationale, mais elles viennent s'ajouter à la Ligue, ce qui augmente évidemment le calibre de jeu.
Puis vous autres, Patricia, pour aller chercher les filles qui sont bonnes dans leur propre quartier, dans leur association, dans leur région, comment on fait pour se faire voir ou est-ce qu'on a des façons d'aller se renseigner sur l'Académie de baseball du Canada féminin?
Oui, tout à fait. Page Facebook, on va avoir bientôt un site web. Mais c'est beaucoup aussi par les événements qu'on va créer, des journées d'identification de talents qu'on a créées l'année dernière où on avait plus de 150 jeunes filles de 13 et plus qui se sont présentées. On a aussi créé ce qu'on appelle la Ligue ABC, qui est la Ligue 16 ans et moins. Donc, ça nous permet de développer plus d'une cinquantaine de joueuses entre 14 et 16 ans pour l'autre niveau. Donc, on essaie tranquillement d'agrandir la pyramide pour avoir au niveau élite dans le senior, dans le 17 ans et plus, plus de joueuses possibles parce qu'on aimerait ajouter des équipes aussi à la Ligue Canada-Est éventuellement.
Fantastique, Patricia. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très occupée, les filles. C'est vraiment spectaculaire ce que le baseball féminin a réalisé au cours des dernières années. Et là, ben, on a l'excellence en plus. Patricia Landry, merci beaucoup de ton temps.
Merci pour l'invitation, Marc.
Marc, tu as parlé un peu plus tôt là, des équipes nombreuses qui pourraient être sur le marché là, pour se renforcer. Et là, au cours des 10 derniers jours, là, les Astros ont perdu 2 lanceurs, peut-être même pour l'année prochaine. Javier qui va se retrouver avec Urquidy sur la table d'opération pour l'opération Tommy John. Les Padres ont perdu 2 lanceurs partant. Les Diamondbacks ont perdu plusieurs lanceurs. Manoah avec les Blue Jays de Toronto. Ça va coûter cher. Je parlais de Garrett Crochet, là. Marc, le prix va être extrêmement élevé. On parle de Crochet, mais Eric Fedy, qui connaît une très bonne saison, aussi pourrait valoir quelque chose parce qu'il n'a pas signé un contrat à long terme avec les White Sox.
Oui, puis tu pourrais ajouter les Orioles de Baltimore qui ont une couple de lanceurs sur la touche aussi. Donc, ça va devenir intéressant. Effectivement, la première chose qu'on fait lorsqu'on est en... On a un besoin, c'est de regarder les équipes qui sont déjà éliminées, et ou pratiquement, là, comme les White Sox. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu l'as dit, le prix va être très cher. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais il y a un Trevor Bauer qui est aussi disponible. Puis moi, j'ai l'impression mais que oui. là, avec le nombre d'équipes qui ont un besoin, oui. ça va finir par accrocher là, cette affaire-là. C'est-à-dire que... Et je sais qu'il a lancé devant les dirigeants des Astros au cours de la dernière semaine. On sait qu'il va quand même toujours très, très bien au Mexique. Alors, ça, c'est un nom qui va refaire surface assurément, Alain, au cours, selon moi, des prochaines semaines. Donc, à suivre dans ce dossier-là. Crochet va coûter très cher parce que, tu sais, à un moment donné, Alain, ça va pas bien avec les White Sox, mais tu repars où, la machine, là? Tu sais, à un moment donné, ouais. il va falloir que tu dises, bon, ben là, on tourne la page, on part. Fait que là, tu as parlé de Wiss Robert un peu plus tôt, là, évidemment, de Crochet. J'ai hâte de voir dans quelle direction les White Sox vont se diriger, mais effectivement, le prix va être extrêmement cher. Et qui va oser? Alors, c'est rien d'être évident à ce niveau-là, mais ce qui est agréable, puis on en a parlé un petit peu plus tôt dans ce balado-là, c'est que là, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le coup, et c'est pour ça que c'est peut-être tentant, justement, pour les White Sox de dire, ben garde, oui, c'est le fun crochet, mais on peut aller chercher énormément pour compte tenu du nombre d'équipes qui sont à la recherche de lanceurs. Alors, c'est un marché là qui va bouger pas mal, j'ai bien l'impression, dans les prochaines... Peut-être pas dans les prochains jours, mais certainement dans les prochaines semaines, compte tenu du fait que les classements sont très serrés. Là.
Penses-tu, Marc, Bauer qui disait « je suis prêt à signer pour le minimum », il voit ça, là. Penses-tu que ses demandes pourraient augmenter un petit peu?
Ben, écoute, là, le problème avec Bauer, c'est, oui, son passé, bon, il n'a pas été accusé au criminel, c'est correct, mais c'est aussi dans son attitude. Donc, il faut être prudent, là, tu sais, parce que là, si tu viens de dire ça, puis tu dis, ben, finalement, là, il y a 4-5 équipes, donc, crache le morceau. Tu comprends? Donc, il va falloir qu'il tienne à ses paroles à un moment donné. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait quasiment plus si on le mettait sous contrat, c'est, il va arriver dans le vestiaire, ça va donner quoi, là, tu sais? Est-ce qu'il a pris de la maturité suite à tout ce qui s'est passé ou on va retrouver encore à être être un peu nerveux sur la façon dont lui va réagir. Donc, c'est un peu ça qui pourrait, ben, en fait, selon moi, qui retient certaines équipes en ce moment afin de bouger pour lui. Là.
Mais écoute, il y a un problème de cinquième partant chez les Braves d'Atlanta, mais c'est pas le problème principal là, sur lequel tu me parlais, Marc, chez les Braves d'Atlanta. On aura probablement besoin d'un ou deux voltigeurs. Duval fait pas trop mal. Mais c'est juste que l'ensemble de l'équipe, on est loin du niveau de l'année passée. C'était peut-être exagéré de demander peut-être le même rendement, sauf qu'on ne frappe pas beaucoup. On a perdu 3 matchs sur 4 contre Washington en fin de semaine. On a quand même un petit coussin. Là. On a 4,5 matchs d'avance sur l'équipe qui pourrait nous devancer dans les équipes repêchées. Antopoulos n'a pas l'habitude de rester des bras croisés. Toi, tu t'attends à quoi? Cinquième partant ou davantage d'attaque?
Ben écoute, c'est sûr, on a parlé des Jays un peu tout à l'heure, on est dans le coup, là, donc on est juste à partir sur une bonne séquence, puis tout va se replacer, il y a trop de talent, mais je suis pas certain qu'on... Tu sais, rappelle-toi justement, lorsque Acuña s'était blessé la première fois, on pensait qu'il allait avoir des grands coups, ben oui, on est allé chercher des solaires, entre autres choses, donc c'est des gros noms, mais je sais pas... Tout dépend qu'est-ce qu'on a à offrir aussi du côté des Braves d'Atlanta. Est-ce qu'on va rechercher un Kevin Pillar qui va très, très bien, par exemple, avec les Angels? Est-ce que c'est le type de joueur qu'on va décider d'aller chercher? Ou on va chercher un George Springer, par exemple, mais il y a un gros contrat, et les Blue Jays devraient ravaler, mais qui a déjà gagné, qui a de l'expérience, qui pourrait revivre un peu avec les Braves. C'est difficile de savoir dans quelle direction Alex Antopoulos pourrait aller, mais je suis pas mal convaincu que c'est plus au niveau... Ben, on cherche toujours des lanceurs, Alain. Ça, c'est clair, peu importe les équipes. Mais je pense que du côté des Braves, c'est un petit peu plus au niveau de l'attaque qu'on voudra aller s'améliorer. Je dirais pas une bougie, parce qu'il y a quand même une couple de gars qui vont très, très bien. On n'a qu'à penser à Ozuna, là. Mais on a quand même des éléments en place. Fait que je suis pas certain que le coup d'Alex Antopoulos sera sur un joueur comme Luis Robert, par exemple, que je verrais plus avec les Dodgers, si jamais on a un coup à aller chercher. Là, évidemment, Pagès va de mieux en mieux, fait qu'on peut, et Hartman va bien au niveau 3 chez les Dodgers, fait qu'on peut-être être un petit peu plus patient. Mais ça reste que c'est le fun, parce que là, ça amène des discussions, puis c'est de savoir qui est... Parce qu'Antopoulos, deux choses. Un, il n'a pas l'habitude d'attendre, et deux, c'est souvent un des premiers directeurs généraux ou en tout cas d'opérations baseball, qui bouge. Il n'attend pas la date limite des transactions souvent. Alors ça peut partir la machine là, à ce niveau-là.
Dodgers, Marc, écoute, on les a fait en fin de semaine. C'est une bonne machine. On aimerait renforcer le dernier tiers. Paredes va bien. On a parlé de Outman, effectivement. C'est un MPP au-dessus de 1000 depuis qu'il est au niveau 3A depuis deux semaines. Donc, Outman, tu fais quoi avec lui compte tenu des attentes des Dodgers? Tu les ramènes ou tu t'en sers comme appât justement dans une transaction pour obtenir un Luis Robert?
Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as deux possibilités. Puis Altman, je pense, a beaucoup de valeur, là, qu'on, même s'il était retourné. C'est comme Édouard Julien. Ouais. Là, les Twins n'iront pas échanger Édouard Julien demain matin. Là, il y a beaucoup trop de valeur. Ouais. Alors, mais si tu as un besoin réel et qu'il y a une équipe qui a de l'intérêt, c'est sûr que tu vas écouter. Là. C'est clair qu'on va écouter. Alors, il faut se donner des options. C'est pour ça que développer des jeunes joueurs, même s'ils sont... T'sais, il faut, parce que du côté des Dodgers, Chris Taylor, par exemple, on parlait de Bijou tout à l'heure. Est-ce qu'un Bijou pourrait pas se retrouver avec les Dodgers en remplacement de, on change un peu. Bon, alors, tout est analysé, Alain. Je suis convaincu. Écoute, chaque équipe arrive avec tant d'arriver avec des solutions pour s'améliorer. Et là, ce que j'ai vu des Dodgers au cours du week-end, j'ai pas haï du tout. Parce qu'on sait qu'on est 7, 8, 9 parmi les pires équipes du baseball. Paguet semble être un peu meilleur. Gavin Lux, un match de deux coups sûrs, est-ce qu'il y a un réveil là? Puis, dans le fond, là, la vraie question dans tout ça, là, c'est quelle est la patience de chacune des équipes? Est-ce qu'on croit encore en nous un petit peu? Est-ce qu'on se donne un 2-3 semaines? Est-ce qu'on fait, tu sais, elle est où la patience ou l'impatience, c'est selon. Et c'est ça qui va faire bouger les choses éventuellement.
Marc, quelquefois, il faut laisser les hommes de baseball faire leur travail. Et là, je fais référence à ce que j'ai lu cette semaine. Les Rockies, je ne sais pas qui on pourrait échanger, mais le nom de Ryan McMahon a été soulevé. Il a un contrat encore de plusieurs saisons avec les Rockies. C'est un joueur intéressant, frappe de la gauche, très bon en défense, bien au-dessus de la moyenne, en fait. Sauf que on dit que le propriétaire l'aime beaucoup. Sauf que quand les Rockies vont être... l'équipe de qualité supérieure, est-ce que McMahon va être encore utile à l'équipe? Moi, je pense aux Angels pour White Sox, quand je pense aux propriétaires qui ne se mêlent pas de leurs affaires, en fait. Oui, c'est leurs affaires, là, quand vient le temps de débourser, dépenser pour de gros contrats. Mais tu ne peux pas décider de garder un joueur parce que tu l'aimes.
Ben, en partant, Alain, lorsque tu as mentionné ça, il est souvent là le problème. C'est d'arriver puis se dire non, on l'aime, il est fin, on aime sa famille, puis je comprends tout ça, là, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est mieux pour ton équipe? Puis on l'a trop vécu, Alain, au cours des années, là, des propriétaires qui se mêlent de décisions baseball, ce n'est jamais bon. Et Alex Agostino nous le dit souvent. Il dit un des aspects importants qui fait que les Phillies vont bien puis que ça va bien, c'est que le propriétaire ne se mêle pas de ça. Il embauche des gens à gros prix pour s'occuper de son aspect baseball. Il les laisse travailler. Alors, s'il n'est pas content, ben il aura juste à les changer. Mais, tu sais, on l'a vécu avec les Expos, on l'a vécu avec, tu sais, je veux dire, un bon propriétaire va s'entourer de gens de baseball qui va leur donner carte blanche. Puis, à ces gens-là de faire le travail à ce moment-là. Puis, si on n'est pas satisfait, mais... Parce que McMahon est un joueur... écoute, les Yankees le convoitent, là. Tu sais, on regarde le troisième but du côté des Yankees. Il n'y a pas de stabilité, là. Tu sais, le Mailleux, on va faire quoi avec lui? C'est plus difficile en attaque. Cabrera va bien, mais... Tu sais, on jongle un peu avec cette position-là depuis une couple d'années, d'ailleurs. Alors, ce serait un joueur qui viendrait drôlement stabiliser ce poste-là, par exemple, du côté des Yankees.
Oui, on a juste à retourner le Mailleux à Colorado, puis ce serait réglé, même si je pense que ça va prendre un petit peu plus. Marc, on va terminer avec la série en fin de semaine Yankees-Dodgers. Marc, il y a eu, je te dirais, une énergie à laquelle moi je ne m'attendais pas dans cette série-là entre les deux équipes. Et ça a été une très bonne série pour les Dodgers, je pense, dans l'ensemble. On se frottait aux Yankees, privé de Juan Soto. Ça, c'est peut-être le seul aspect là, qui fait en sorte que ça peut-être pas, pour les Yankees en tout cas, a été à leur goût. Sauf que, on en a entendu parler énormément. Je sais que les Phillies ont un bon dossier, sauf qu'avec un calendrier très facile, on n'a presque pas joué, Marc, chez les Phillies, qui ont des équipes qui jouent pour plus de 500. Je ne veux pas enlever ce qu'ils ont fait. Mais il y en a plusieurs qui disaient qu'en fin de semaine, Dodgers-Yankees, peut-être un présage de la Série mondiale.
Écoute, puis ils se sont pas, on les a pas vus les deux ensemble en Série mondiale depuis 81. Alors, est-ce qu'on est mûr pour voir une série de la sorte? C'est vrai qu'on a senti qu'il y avait quelque chose d'unique avec cette série-là. Les joueurs l'ont senti. Effectivement, ça aurait été encore meilleur si Juan Soto avait été en uniforme. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si ce lundi, Soto sera de retour dans la formation des Yankees, ou en tout cas avoir des nouvelles dans son cas. Mais c'est bon pour le baseball, cette série-là. Tu sais, il y a eu, on a parlé tantôt de la série à Londres. Là, on a eu cette série entre Yankees et Dodgers. Ça fait qu'une bonne, tu sais, une bonne vibration, si vous voulez, autour du baseball présentement. Puis on avait besoin de ça. Et c'est bon de chez les Dodgers de se positionner. Tu as parlé des Phillies. Les Phillies ont une meilleure fiche que les Dodgers dans la Ligue nationale présentement. Mais d'arriver au Yankee Stadium, même si Juan Soto n'était pas là, de la façon dont les Dodgers ont joué, ça répond peut-être à certaines questions là, de leur côté. Alors, j'aimais ça. C'est quand, lorsque c'est bon pour le baseball, lorsque le spectacle est bon, le match de dimanche qu'on a présenté à RDS dans la victoire donc des Yankees, c'était du bonbon. Là. C'est un des bons matchs qu'on a présenté cette année. Victoire très serrée de 5 à 4. Alors, écoute, quoi demander de plus? Toujours est-il que c'est bon pour le baseball. En passant, Alain, je change de sujet rapidement, ce qui est bon pour le baseball, je veux juste souligner qu'il y a deux Québécois, Alain, qui vont participer à la série mondiale des collèges américains. Ce n'est pas rien, ça s'est réglé tard hier soir. Mais Émilien Pitre, qui est avec Kansas, évidemment, et Robin Villeneuve avec Tennessee, les deux vont participer donc à la série mondiale à Omaha. Alors, on va suivre ça de près, évidemment. On est très fiers de voir que deux gars du Québec qui s'en vont, en fait, nous représenter dans cette série mondiale-là.
Oui, bien écoute Marc, c'est le temps de présenter les matchs de la semaine 3. L'horaire des matchs télévisés est présenté par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines de Funko Pop, on vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Donc les Yankees, on les verra lundi. Moi j'ai bien hâte parce que ce sera contre les Royals de Kansas City à RDS à compter de 20h. Mercredi, on verra les Phillies de Philadelphie au Fenway Park de Boston à RDS2 à 19h. Et dimanche, ben quoi de mieux, les Yankees contre les Red Sox au Fenway Park, comme à l'habitude, le dimanche à 19h à RDS. Donc, encore beaucoup d'action qui nous attend au cours de la prochaine semaine. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour notre balado compte complet. Portez-vous bien, à la prochaine.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.